Vous écoutez, on lit pour vous.
127 millions d'enfants privés d'école en raison de conflits armés. Un texte de Magdalene Boutros paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir. Plus de 473 millions d'enfants, soit un enfant sur six dans le monde, vivent dans une zone de conflit, une proportion qui a presque doublé depuis les années 1990. Environ 127 millions de ces enfants sont privés d'école. Une triste réalité qui met non seulement en péril leur avenir, mais aussi la stabilité géopolitique. Pour Laura Frigenti, directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, le manque d'éducation sème les graines du prochain conflit. Fondée il y a 22 ans par le G8 et évoluant sous l'égide de la Banque mondiale, le partenariat est le plus grand fonds international exclusivement dédié au secteur de l'éducation. L'éducation n'est pas seulement affectée par les conflits, elle est aussi essentielle pour les prévenir, résume Mme Frigenti en entrevue depuis Washington à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, soulignée vendredi. Une corrélation claire existe entre la paix et l'éducation, dit-elle en citant une étude dévoilée en septembre par le Partenariat et l'Institute for Economics and Peace, basée en Australie. Donnée à l'appui, l'étude établit que les pays dont les taux moyens d'achèvement du primaire sont les plus élevés sont en moyenne plus pacifiques. On le voit partout, dans toutes les régions du monde. La stabilité de la société est liée au niveau d'éducation. Les pays où les élèves fréquentent l'école plus longtemps et bénéficient d'un meilleur apprentissage sont aussi plus pacifiques. Et les pays affichant un pourcentage élevé de jeunes sans emploi, ne suivant ni formation ni études, ont des niveaux de paix inférieurs. Un avenir en péril. Actuellement, plus de 17 millions d'enfants ne sont pas scolarisés au Soudan. Au Yémen, ce sont 4,5 millions d'élèves qui sont privés d'école. À Gaza, 95% des bâtiments abritant des écoles ont été détruits ou endommagés. En Ukraine, plus de 3 500 établissements d'enseignement ont été dévastés, en partie ou en totalité. En Afghanistan, les filles n'ont plus le droit de fréquenter l'école après le primaire. Les enfants déscolarisés sont privés d'opportunités pour améliorer leur vie et leurs conditions économiques, s'attriste Mme Frigenti. L'école, c'est aussi la possibilité d'obtenir un soutien alimentaire, une aide psychologique ou des services médicaux comme la vaccination, et d'être en contact avec d'autres écoliers est un atout pour développer des aptitudes socio-émotionnelles. Lorsque des réfugiés syriens fuyaient leur pays en guerre pour trouver refuge en Jordanie, la première demande des mères était que leurs enfants puissent aller à l'école, rapporte la directrice générale du partenariat, actif dans 90 pays, parce que l'école donne aux enfants un sens de normalité et une routine, après avoir vécu un choc terrible. C'est le premier pas d'un processus de normalisation. Antidote contre l'extrémisme. Environ 40% des personnes déplacées sur la planète sont des enfants. Souvent, ils trouvent refuge dans des pays à faible revenu qui peinent déjà à scolariser leur propre population. Or, il est essentiel que des structures soient rapidement mises en place pour accueillir ces écoliers puisque, plus les enfants sont en dehors de l'école longtemps, plus c'est difficile de les ramener, note Mme Frigenti. Un constat encore plus vrai pour les filles, qui sont 2,5 fois plus à risque d'être déscolarisées dans les zones de conflit que les garçons. Et on connaît le futur qui les attend, un futur de mariage forcé, de grossesse précoce et d'opportunités économiques manquées. La scolarisation dans les pays en proie à la violence est aussi un antidote efficace contre la radicalisation, particulièrement chez les jeunes hommes. Quand ils n'ont pas d'opportunité pour améliorer leur vie, ils vont chercher les opportunités ailleurs. Parfois, dans un parcours de migration qui peut s'avérer dur et dangereux. D'autres fois, auprès de groupes terroristes leur faisant miroiter l'idée qu'ils peuvent changer la société et le statu quo. Pour qu'une voie viable soit offerte à ces jeunes hommes, il est primordial que les programmes éducatifs mènent à l'acquisition de capacités professionnelles, puis directement à un travail qui leur permettra d'avoir des conditions de vie décentes, pointe Mme Frigenti. Le Canada assume en 2025 la présidence du G7. Une occasion en or, selon la directrice générale du partenariat, pour que le pays joue un rôle de leader pour appuyer l'éducation à travers le monde, puisqu'investir dans l'éducation, ça permet de garantir une société plus stable. C'était 127 millions d'enfants privés d'école en raison de conflits armés. Un texte de Magdalene Boutros paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir.
Comment aider un proche vulnérable? Un texte de Louise Leduc paru le 5 février 2025 dans La Presse. Que dire à quelqu'un qui vient de faire une tentative de suicide? Comment agir avec un proche dont on craint qu'il se donne la mort? En cette semaine de prévention du suicide, question en rafale au professeur de l'UQAM, Brian Michara, cofondateur de Suicide Action Montréal, maintenant appelé Centre de prévention du suicide de Montréal. Après la mort de l'écrivaine Nelly Arcan en 2009, ses proches ont dit que le suicide avait toujours été pour elle une obsession, que cela faisait 15 ans qu'il tentait de la maintenir en vie. Que conseillez-vous à tous ces proches de personnes qui semblent si vulnérables? Le meilleur moyen d'aider une personne qui est possiblement à risque de suicide est de parler avec elle de ce qui la préoccupe, d'exprimer votre inquiétude et votre volonté de l'aider, de lui poser des questions directes sur ses intentions pour vérifier s'il y a un danger imminent. Il faut l'encourager à trouver de l'aide ou à continuer à suivre ses plans de traitement. Si ces réponses vous inquiètent, appelez un centre de prévention du suicide 1-866-APPEL ou 1-866-277-3553. Heureusement, la plupart des personnes qui envisagent sérieusement de se suicider obtiennent de l'aide et ne le font pas. Avec la recherche, sait-on mieux déterminer ce qui amène quelqu'un à se suicider? Ce serait plus facile si nous pouvions identifier une seule cause majeure. C'est la maladie mentale. C'est l'alcool. C'est la drogue. C'est le désespoir. La vérité, c'est que c'est multifactoriel. Mais on sait en tout cas qu'une crise suicidaire est presque toujours accompagnée d'une ambivalence. Celui qui appelle un centre de prévention du suicide, qui se dit prêt à se tuer et qui dit n'avoir besoin que d'une voix pour l'accompagner dans la mort, va généralement changer d'avis et ne pas se suicider. La personne qui songe au suicide ne veut pas mourir. Ce qu'elle veut, c'est ne plus souffrir. Avoir l'espoir de pouvoir vivre sans tous ces problèmes pour lesquels elle ne voit pas la solution. Elle pense à tort qu'elle n'a pas d'autres options, l'adolescente qui vit sa première peine d'amour, par exemple. Après une tentative de suicide, le regret est-il fréquent? Dans un congrès à Montréal, Kenneth Hines, un Américain qui consacre aujourd'hui sa vie à la prévention, a raconté qu'après s'être dépouillé de tous ses biens, avoir envoyé ses lettres d'adieu et s'être jeté du Golden Gate à San Francisco, il a réalisé, au moment même de sauter dans le vide, à quel point il voulait vivre absolument. Une série de coïncidences a fait qu'il a survécu. Pour moi, qui travaille en prévention, chaque suicide est une tragédie, le signe qu'une personne n'a pas trouvé l'aide thérapeutique dont elle avait besoin. Des familles sont furieuses que leur proche ait obtenu trop rapidement un congé de l'hôpital après une tentative de suicide, puis qu'il se soit tué. Que disent les protocoles? Une tentative de suicide, c'est un comportement, ce n'est pas une maladie. Il n'y a pas de prise de sang ou d'examen radiographique qui peuvent prédire le moment où cela arrive. Les facteurs de risque sont connus, mais il est difficile de savoir à quel moment et pour qui ils précipiteront une crise. Il y a aussi des facteurs de protection qui peuvent diminuer le risque. Un proche empathique, des démarches psychothérapeutiques, par exemple. Ne va-t-on pas trop loin dans la protection des droits? Des soignants peinent à obtenir une ordonnance de soins d'urgence devant les tribunaux et des personnes se plaignent que leurs proches en crise sont mal protégés contre eux-mêmes. Je trouve difficile de remettre en question les droits de la personne, d'autant que, sur le fond, chacun a le droit de se suicider, même si c'est éminemment tragique. Il est certain que nous pouvons faire beaucoup plus pour mieux former le personnel hospitalier à l'évaluation du risque de suicide et mettre en place des équipes spécialisées en prévention pour un traitement plus efficace en milieu hospitalier et un suivi intensif dans la communauté. Quand quelqu'un a fait une tentative de suicide, faut-il en parler avec lui? Le tabou peut être énorme. Ses proches peuvent craindre de raviver le souvenir du pire moment de sa vie, non? Le mieux est de dire à la personne que, si elle souhaite en parler, on sera là pour l'écouter. Mais on ne le fait que si l'on est en mesure de l'écouter sans porter de jugement. Il ne faut jamais culpabiliser la personne, évoquer qu'elle a commis un péché mortel ou lui dire le mal qu'elle a fait à ses proches. Nous pouvons écouter sa souffrance, encourager et appuyer ses initiatives positives et trouver de l'aide si elle pense sérieusement à faire une autre tentative. Comment composer avec le suicide d'un proche? On n'oublie jamais le suicide d'un proche, mais on peut arriver à vivre avec cette réalité sans en être aussi bouleversé qu'au début. Les groupes d'entraide des personnes endeuillées par suicide, en présentiel et en ligne, aident les personnes à ne pas se culpabiliser. Les statistiques des dernières années démontrent un plateau d'un peu plus de 1 000 suicides annuels au Québec. Que peut-on améliorer? D'abord, améliorer l'accès au traitement en santé mentale et en dépendance. Une personne qui n'a pas les moyens d'aller au privé aura droit à une ou deux rencontres au CLSC, puis sera sur une liste d'attente pendant un an ou deux avant de voir un psychothérapeute. Il est regrettable aussi que la santé publique ne préconise pas la mise en place de programmes de prévention du suicide dans les écoles. Dans plusieurs pays, ils donnent de très bons résultats. Il faut offrir les programmes d'enseignement des stratégies d'adaptation positive à l'école primaire. Il faudrait aussi améliorer la surveillance sur l'Internet. Kenneth Law, un Canadien, aurait expédié plus de 1 200 colis dans 40 pays contenant une trousse de suicides. Il est accusé de 14 meurtres prémédités au Canada. Enfin, si une personne qui a fait une tentative de suicide ne se présente pas à ces rendez-vous de suivi, une ou deux relances téléphoniques des professionnels, ce n'est pas suffisant. Il faudrait aller cogner à sa porte, s'assurer que cette personne obtienne et accepte l'aide dont elle a besoin. Besoin d'aide? Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, appelez le 1-866-APPEL 1-866-277-3553. Un intervenant en prévention du suicide est disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou vous pouvez visiter www.suicide.ca pour obtenir l'information ou l'aide par clavardage. En savoir plus. Source: Les comportements suicidaires, portrait 2025, Institut national de santé publique du Québec. De 50 à 64 ans, tranche d'âge où le taux de suicide est le plus élevé chez les hommes. De 35 à 49 ans, Tranche d'âge où le taux de suicide est le plus élevé chez les femmes. 2,5% part des personnes avec des antécédents suicidaires qui ont mis fin à leur jour dans les 5 ans suivant la première hospitalisation. C'était « Comment aider un proche vulnérable », un texte de Louise Leduc paru le 5 février 2025 dans La Presse.
Les anneaux de Saturne disparaîtront. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse. Un rare alignement planétaire aura lieu au printemps 2025. Résultat, les anneaux de Saturne seront presque invisibles de la Terre. C'est l'occasion de faire le point sur l'origine de ces anneaux qui sont appelés à réellement disparaître dans environ 100 millions d'années. Des anneaux presque invisibles. Tous les 13 à 15 ans, Saturne présente à la Terre ses anneaux de côté. Comme ils sont très minces, ils sont pratiquement impossibles à voir. Cela se produira le 23 mars 2025. Citation : Voir Saturne avec ses anneaux est l'un des spectacles les plus impressionnants en astronomie amateur. Fin de citation, explique Robert Saint-Jean de la Société d'astronomie de la Montérégie, SAMO. Citation : Alors ne plus les voir est frappant. Fin de citation. Les anneaux les plus épais font moins de 40 mètres et les plus minces seulement quelques mètres, note Olivier Hernandez, directeur du Planétarium de Montréal. Citation. Voir l'évolution des planètes est l'un des grands plaisirs de l'astronomie amateur, affirme M. Hernandez. On peut regarder les mouvements de la tache rouge de Jupiter, par exemple, ou alors voir Saturne changer d'aspect selon la position de ses anneaux par rapport à la Terre. Fin de citation. Uranus et Neptune ont aussi des anneaux, mais ils sont beaucoup moins visibles de la Terre. Le défilé des 7 planètes. Un alignement plus fréquent, le dernier remonte à avril 2024, permettra, le 28 février 2025, d'apercevoir dans le ciel 7 planètes. Citation. Actuellement, on peut voir 6 planètes et dans un mois, on pourra aussi voir Mercure. Fin de citation, indique M. Saint-Jean. Vénus, Jupiter, Mars et Saturne sont actuellement visibles à l'œil nu. Neptune et Uranus sont également visibles, mais avec un petit télescope, souligne M. Hernandez. De son côté, Mercure sera visible à l'œil nu dans un mois. Citation, mais il faut faire attention, parce que Mercure est très proche du Soleil. Fin de citation, prévient-il. Une origine récente. Jusqu'à tout récemment, on considérait que l'apparition des anneaux de Saturne remontait au début du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années. La sonde américaine Cassini, qui a séjourné près de Saturne de 2004 à 2017, a découvert que l'évolution de la quantité de matière dans les anneaux est incompatible avec un tel âge. Une partie de la matière des anneaux tombe continuellement sur Saturne. Ils perdent plusieurs dizaines de millions de tonnes par année, ce qui signifie qu'ils disparaîtront dans de 100 à 150 millions d'années, selon Jack Wisdom, un astrophysicien du Massachusetts Institute of Technology, MIT, qui a publié en 2022 dans la revue Science une nouvelle thèse sur la création des anneaux de Saturne. Citation. Depuis Cassini, dit M. Wisdom, on sait que les anneaux de Saturne ont été créés il y a au maximum 400 millions d'années. Sinon, ils auraient été trop massifs au départ. Fin de citation. Collision ou désintégration. Pour expliquer la création des anneaux de Saturne, M. Wisdom défend la thèse selon laquelle une lune de taille moyenne, qu'il a baptisée Chrysalis, s'est graduellement rapprochée de Saturne avec une orbite de plus en plus elliptique et a fini par être désintégrée par une trop grande proximité avec la planète géante il y a plus de 100 à 200 millions d'années. M. Wisdom est arrivé à cette conclusion un peu par accident. Il s'intéressait à l'un des nombreux mystères de Saturne, l'éloignement de Titan, une lune de Saturne, à une vitesse de 10 cm par année. Titan a reçu en 2005 la visite de Huygens, une sonde qui transportait Cassini. Cet éloignement, rapide, ne pouvait être expliqué par les modèles actuels sur Saturne. Au fil de calculs complexes, impliquant notamment la force d'inertie de Saturne et la direction de son axe de rotation par rapport au Soleil, il a fini par expliquer cet éloignement de Titan par la disparition de Chrysalis. Citation. Chrysalis a juste la bonne masse pour expliquer la création des anneaux et elle aurait disparu au moment où ils ont été créés, indique M. Wisdom. Environ 1% de la masse de Chrysalis s'est retrouvée dans les anneaux, le reste est retombé sur Saturne. Fin de citation. Vous écoutez « Les anneaux de Saturne disparaîtront », un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse. Une autre hypothèse a été proposée en 2023 dans l'Astrophysical Journal par des chercheurs de l'Université de Durham en Angleterre. Une collision entre deux lunes glacées de Saturne, semblable aux lunes actuelles, Dionée et Rhéa, survenue il y a 200 millions d'années. Selon Jacob Kegaris, citation, « Saturne a un système particulièrement complexe de lunes. Il y en a 146, c'est le record de notre système solaire. Nous avons étudié l'évolution possible de ce système de lunes et nous avons découvert que les collisions doivent y être fréquentes. » Fin de citation. À titre de comparaison, Jupiter a 95 lunes, Uranus en a 28 et Neptune 14. Citation. Il se pourrait aussi que les anneaux existent depuis plus longtemps et qu'ils soient régulièrement renforcés par une autre collision de lunes. Fin de citation, ajoute Jacob Kegaris. La dynamo solaire. La parade des sept planètes dans le ciel terrestre est parfois appelée alignement. Les astronomes amateurs n'aiment pas ce terme parce que les planètes ne sont pas sur la même ligne. Pourtant, les alignements de planètes ont fait l'objet de recherches. En 2019, un astrophysicien allemand, Frank Stefani, du centre Helmholtz à Dresde, HZDR, a formulé l'hypothèse que le cycle solaire d'environ 11 ans était dû à un alignement, au même intervalle, de Vénus, de la Terre et de Jupiter. Citation. Ces trois planètes sont du même côté du Soleil. Cela peut susciter une force suffisante pour causer des petites rotations à l'intérieur du Soleil. Fin de citation, estime M. Stefani. Mais l'existence de cette dynamo solaire, basée sur des alignements de planètes, est une théorie très mineure selon M. Hernandez du Planétarium. Robert Cameron, astrophysicien de l'Institut Max Planck de recherche sur le système solaire à Göttingen en Allemagne, a publié en 2023 dans la revue Astronomy and Astrophysics une analyse statistique montrant que la durée du cycle solaire varie trop pour être compatible avec un alignement de planètes survenant à un intervalle fixe. Citation. « La masse des planètes proches du Soleil est trop faible, dit-il, et les planètes géantes sont trop loin pour avoir un impact sur le Soleil. Il faudrait avoir une Jupiter chaude très près du Soleil, comme dans plusieurs systèmes solaires, pour que ce soit possible. » Fin de citation. L'idée que l'alignement des planètes explique la relative régularité des cycles solaires existe depuis qu'ils ont été découverts au milieu du 19e siècle, précise M. Cameron. L'absence d'un modèle robuste expliquant ces cycles favorise la renaissance régulière des propositions d'une dynamo solaire due à un alignement de planètes. Citation. On pense que les cycles solaires sont liés à des flux de matière proches de la surface du Soleil. Mais ces flux sont difficiles à mesurer parce qu'ils sont très lents, 2 à 3 mètres par seconde, et quand même situés à 200 000 km sous la surface. Fin de citation. En savoir plus. Source NASA. 95 fois masse de Saturne par rapport à la Terre. 1,8 fois masse de Titan par rapport à la Lune. 282 000 km. Diamètre des anneaux de Saturne. 120 000 km, diamètre de Saturne. C'était « Les anneaux de Saturne disparaîtront », un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse.
Lutter contre le racisme envers les Noirs. Un texte de Patrimoine canadien paru le 31 janvier 2025 sur le site du gouvernement du Canada. Pour de trop nombreuses communautés au Canada, le racisme envers les Noirs est une réalité quotidienne. Aujourd'hui, et pas seulement à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, nous devons sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par ces communautés et confronter et dénoncer toutes les formes de racisme et de discrimination à l'encontre des Noirs. Définition du racisme envers les Noirs. Le racisme envers les Noirs s'entend des préjugés, des attitudes, des croyances, des stéréotypes et de la discrimination dirigée à l'égard des personnes d'ascendance africaine et trouve son origine dans l'histoire et l'expérience unique que l'esclavage leur a fait vivre. Le racisme envers les Noirs est profondément enraciné dans les institutions, les politiques et les pratiques canadiennes, de sorte qu'il est fonctionnellement normalisé ou rendu invisible à la majorité blanche. Le racisme envers les Noirs se manifeste dans l'héritage qu'est la marginalisation sociale, économique et politique actuelle des personnes noires dans la société au Canada et qui se traduit par le manque de possibilités, un statut socio-économique inférieur, un chômage accru, des taux de pauvreté importants ainsi qu'une surreprésentation dans le système de justice pénale. Comment lutter contre le racisme envers les Noirs? Le racisme sous toutes ses formes est inacceptable et n'a pas sa place au Canada. Il va à l'encontre des valeurs et de l'esprit de la société diversifiée et inclusive que nous nous efforçons de construire. Il est de notre responsabilité collective d'agir, d'être des alliés et de nous unir contre la xénophobie, la haine alimentée par la désinformation et toutes les formes de racisme, y compris le racisme envers les Noirs. Voici quelques moyens de contribuer à la lutte contre le racisme envers les Noirs et à la construction d'une société encore meilleure et consciemment plus inclusive où chacun est en mesure de participer pleinement. En savoir plus sur la diversité des Noirs et sur les histoires et cultures uniques des communautés noires au Canada. Remettre en question les stéréotypes et reconnaître qu'ils sont enracinés dans l'histoire du racisme. Faire preuve de solidarité avec les communautés noires du Canada, c'est-à-dire en soutenant les entreprises et les organisations locales détenues ou dirigées par des Noirs. Être un allié en dénonçant les actes de racisme, de discrimination et de micro-agression et en soutenant activement les victimes du racisme. Remettre en question les préjugés inconscients et réfléchir à la manière dont ils peuvent affecter votre comportement et votre prise de décision. C'était « Lutter contre le racisme envers les Noirs », un texte de Patrimoine canadien paru le 31 janvier 2025 sur le site du gouvernement du Canada.